OK, ça fait qu'aujourd'hui, on va étudier Ecclésiaste chapitre 2, versets 18 à 26. Autrement dit, ça finit le chapitre 2. Verset 18. J'ai haï tout le travail que j'ai fait sous le soleil et dont je dois laisser la jouissance à l'homme qui me succédera. Et qui sait s'il sera sage ou insensé? Cependant, il sera maître de tout mon travail, de tout le fruit de ma sagesse sous le soleil. C'est encore là une vanité. Et j'en suis venu à livrer mon cœur au désespoir à cause de tout le travail que j'ai fait sous le soleil. Car tel homme a travaillé avec sagesse et science et avec succès, et il laisse le produit de son travail à un homme qui ne s'en est point occupé. C'est encore là une vanité et un grand mal. Que revient-il en effet à l'homme de tout son travail et de la préoccupation de son cœur, objet de ses fatigues sous le soleil? Tous ses jours ne sont que douleur, et son partage n'est que chagrin. Même la nuit, son cœur ne repose pas. C'est encore là une vanité. Il n'y a de bonheur pour l'homme qu'à manger et à boire et à faire jouir son âme du bien-être au milieu de son travail. Mais j'ai vu que cela aussi vient de la main de Dieu. Qui, en effet, peut manger et jouir si ce n'est moi? Car il donne à l'homme qui lui est agréable la sagesse, la science et la joie, mais il donne aux pécheurs le soin de recueillir et d'amasser afin de donner à celui qui est agréable à Dieu. C'est encore là une vanité et la poursuite du vent. Alors aujourd'hui, après avoir étudié le passage, l'idée qui m'est venue à l'esprit comme titre, c'était de voir le rôle de la main de Dieu dans la quête du bonheur par l'homme. On sait que tous les hommes, d'une façon ou d'une autre, cherchent à trouver le bonheur sur la terre. Mais on peut appeler ça une quête, ils cherchent à obtenir le bonheur. Mais ce qu'ils ne se rendent pas souvent compte, c'est que Dieu a un rôle dans tout ça. Et c'est ce qu'on va examiner aujourd'hui. Quel est le rôle de Dieu? Quand l'homme essaie d'obtenir le bonheur, Dieu est-ce qu'il intervient là-dedans? La réponse est oui. Et on va voir de quelle façon Dieu intervient dans la quête du bonheur par l'homme. Alors, comme ceux qui ont les notes peuvent le voir, vous pouvez les télécharger pour ceux qui écoutent sur Internet. Ce qu'on va voir, il va y avoir comme trois parties du rôle de Dieu, de la main de Dieu dans la quête du bonheur par l'homme. C'est la main de Dieu est rectificatrice. Rectificatrice, ça veut dire que le Seigneur rectifie des choses. Rectifier, ça veut dire modifier, ça veut dire corriger. Ça veut dire que le Seigneur va corriger les choses dans la vie des hommes. Donc, à partir du verset 18 jusqu'au verset 23, on va voir le rôle de la main de Dieu qui est rectificatrice, qui vient corriger des perceptions ou des actions de l'homme dans sa quête du bonheur. La deuxième idée qu'on va regarder dans le verset 24 et 25, c'est la main de Dieu est régulatrice. On va voir que le Dieu vient jouer un rôle régulateur. Là, les versets 25 et 26. Et la troisième idée qu'on va regarder, c'est que la main de Dieu est rétributrice, verset 26. Autrement dit, le verset 26 vient nous dire que Dieu permet que ceux qui sont obéissants reçoivent beaucoup et que ceux qui ont amassé sans tenir compte de ce que Dieu veut, Dieu va permettre que les biens qu'ils ont accumulés soient donnés à celui qui est sage. Alors, c'est vraiment les trois rôles, quand on examine vraiment, qu'on réfléchit un petit peu au sens du texte, c'est vraiment les trois idées. La main de Dieu qui est rectificatrice, la main de Dieu qui est régulatrice, puis la main de Dieu qui est rétributrice. Alors, juste pour rappeler un petit peu ce qu'on avait vu dans notre dernière leçon. Donc, les versets 12 à 17 du chapitre 2, qu'on avait vu la semaine dernière. Salomon avait voulu poursuivre et approfondir sa réflexion sur le sens de la vie. Ce qu'il voulait faire, c'est de comparer est-ce que la sagesse humaine a de l'avantage sur la folie et sur la sottise. Et la chose qu'il a tenu compte dans sa réflexion, c'est quel est le rôle de la mort là-dedans. Autrement dit, la mort, est-ce qu'elle va venir changer des choses? Autrement dit, comme ce qu'on avait vu la semaine dernière, c'est qu'il était découragé parce qu'il s'était rendu compte que tu sois sage ou que tu ne sois pas sage, tu vas crever pareil. Puis ça l'avait emmené au point de découragement où il avait dit « J'ai haï la vie ». Hey, c'est aggro comme expression. On dit de l'Ecclésiaste, c'est supposé être un enseignant, c'est supposé être un pédagogue. Puis la conclusion de sa recherche vient de dire « J'ai haï la vie ». C'est parce qu'il réfléchissait sur comment les hommes agissent et qu'est-ce que ça va leur donner en fin de compte. Et là, il était découragé la semaine dernière parce qu'il a vu que tu sois sage ou que tu sois que tu agisses de sottement, les résultats vont être la même à cause que la mort va venir faucher tout ce que tu as fait. Puis là, il avait terminé le dernier verset, c'était le verset 17, il avait dit « J'ai haï la vie ». Hey, c'est gros comme expression. Alors, il avait fait des observations qui étaient très lucides, mais c'était qu'une conclusion d'amertume et de désespoir. Quand tu regardes tout ce que tu as fait dans la vie, tu te rends compte que, dans le fond, ça va aller aux autres, ça ne va me donner rien, c'est une perte de temps, c'est une ballonne qui va se dégonfler, un peu comme une aiguille quand tu perces un ballon. Puis, il était rendu comme dans une idée de désespoir. Alors, il avait dit une expression très forte, « J'ai haï la vie ». Et il a dit aussi que tout, après avoir tout examiné ça, et il voit que tout ce qui était sur le soleil lui avait déplu. Hey, c'est gros comme expression, gros comme affirmation. Tout ce que tu as vu sur le soleil, il était roi, il était riche, il était sage. Dieu avait donné la plus grande sagesse qu'aucun homme n'a jamais eue sur la terre. Le Seigneur avait dit, je te donne la sagesse plus grande qu'aucun homme sur la terre et qu'aucun homme n'aura après toi. Donc, c'était l'homme le plus sage que la terre ait porté. C'est Dieu qui lui avait donné. Et il arrive avec cette conclusion-là, après sa réflexion sur la vie. Il dit, j'ai haï la vie. Hey, c'est fort, là. Et là, Salomon a encore une leçon à apprendre, celle de la place de la main de Dieu à trois endroits, à la correction. Autrement dit, si ta vie, tu as toujours travaillé juste pour l'argent, pour la gloire, pour des choses semblables, la vie va t'apprendre que, dans le fond, tu ne trouves pas le bonheur par l'argent, tu ne trouves pas le bonheur par la connaissance humaine, tu ne trouves... Et c'est ça qu'il veut. Dieu va se charger de te corriger, de te montrer que les orientations que tu as prises, les décisions que tu as prises, ta marche de tous les jours, te conduit vers le désespoir. Hey, le gars le plus cher que la Terre a porté, là, après toute son observation de tout ce qui se passe sur la Terre, c'est ça qui est arrivé comme conclusion. Autre chose que le Seigneur veut lui montrer, c'est qu'il est il a un rôle régulateur. Autrement dit, les hommes doivent apprendre à se contenter de ce que Dieu leur offre, de ne pas viser trop haut. Si tu cherches à expliquer tout ce qui se passe sur la Terre, tu vises trop haut. Le Seigneur, il t'a dit, je te donne le manger, je te donne le boire, je te donne aussi une certaine satisfaction dans soit tes études, soit ton travail, contente-toi de ce que je te donne. Viser plus haut, ça ne donne rien. Et c'est pour ça qu'on dit régulateur, parce qu'il va venir te montrer que tu devrais te contenter de ce qu'il t'a donné. Et la troisième partie, c'est que Dieu va montrer sur le monde son rôle de rétributeur. Autrement dit, il dit dans le verset 26, on va le voir tantôt, et il dit dans le verset 26 que il donne à celui qui lui est agréable et il permet aux méchants d'accumuler des richesses, mais que ces richesses-là, Dieu dit qu'il va les transférer à celui qui lui est agréable. Alors, ça fait plusieurs leçons que le roi Salomon avait à apprendre. Puis par le fait même, si l'Ecclésiaste est dans la Bible, c'est pas juste pour nous montrer ce que Salomon a pensé. C'est pour nous montrer que nous, si on prend le même chemin que lui a pris, on va arriver exactement aux mêmes conclusions. Alors, on reprend la première idée, qui est la main de Dieu est rectificatrice. Alors, rectifier, je fouillais dans le dictionnaire, ça veut dire rendre quelque chose, une idée, une direction ou une compréhension, la rendre exacte en la corrigeant. Autrement dit, si Dieu voit que tu as voulu poursuivre toute ta vie, juste accumuler des richesses ou juste accumuler de la gloire, il te dit il va venir te corriger. Parce que je l'ai vu souvent dans ma vie. Des personnes, j'ai vu des personnes riches, j'ai côtoyé des personnes riches dans ma vie. Puis la chose que je me suis rendu compte, c'est que peu importe la quantité de richesses qu'ils ont, ils sont jamais contents. Ils en veulent encore plus. Ça t'amène pas la satisfaction, ça t'amène pas parce que tu n'agis pas correctement. Dieu devrait avoir la place numéro un dans ta vie, puis toi, te placer les biens matériels et la gloire ou la connaissance humaine en avant. Alors, ce que ça fait, c'est que ça t'amène à un état de désespoir. Et c'est ça le côté correctrice. La main de Dieu va venir te montrer, avec l'accumulation des expériences que tu vas vivre, que non, tu te trompes, parce qu'en faisant ça, j'ai besoin de te corriger et te montrer que le bonheur n'est pas là. Alors, rectifier, c'est vraiment rendre quelque chose, une idée, une direction ou une compréhension, la rendre exacte en la corrigeant. La grande sagesse de Salomon l'avait conduit à essayer de comprendre les choses de la vie dans leur absolue totalité. Si, en tout cas, depuis le début qu'on étudie chapitre 1, on avait vu que Salomon avait eu une ambition démesurée. Autrement dit, il avait pensé qu'il était capable de comprendre tout ce qui se passe sur la terre à tous les niveaux. Et même les animaux, la nature, il pensait qu'il était. Puis à un moment donné, il est arrivé à la conclusion que non, c'est trop gros pour moi, c'est trop grand pour moi, j'y arriverai jamais. En un mot, son ambition était immodérée et il visait beaucoup trop haut. Le Seigneur doit lui enseigner ses limites et l'humilier. Mais ce qu'il a appris à Salomon, je pense qu'en même temps, il nous l'apprend à nous. Parce que si on prend la même route que lui, c'est sûr qu'on va arriver aux mêmes conclusions. Donc, le verset 18 et 19, où on voit la main rectificatrice du Seigneur, c'est dans le fait qu'il se rend compte qu'il ne peut pas garder les résultats de son travail. Prenons un exemple. Un gars décide d'investir dans quelque chose, il est très habile, il est très intelligent. Là, il se met à faire de l'argent. Il fait de l'argent sans bon sens. Il accumule toutes sortes de biens, des bateaux, des chalets, il fait des voyages. Puis en fin de compte, il se rend compte dans sa vie qu'il n'est pas heureux, ça ne l'amène pas nulle part. Mais quand il sait que la vie a une fin, quand la mort arrive, tu sais très bien que tout ce que tu as accumulé, même si tu voudrais le garder, tu ne peux pas le garder parce que la mort va t'en séparer. Alors il dit dans le verset 18 et 19, et j'ai haï tout le travail que j'ai fait sous le soleil. Imaginez-vous, tout à l'heure, il disait qu'il haïssait la vie. Là, il dit qu'il haït tout le travail qu'il a fait dans sa vie. Il a construit des choses extraordinaires. Quand on lit la vie de Salomon, là, il a construit des temples, il a construit des affaires, des immenses constructions. Un homme d'une grande intelligence. Alors, il dit que j'ai haï tout le travail qui se fait sous le soleil parce que je le laisserai à l'homme qui sera après moi. Autrement dit, il se rend compte que la mort va faire en sorte que tout ce qu'il a accumulé, il va être obligé de donner à un autre. Puis ce qui est souffrant là-dedans, c'est qu'il va se rendre compte que l'autre qui vient après lui, il ne administrera pas nécessairement bien ce qui lui a été donné. Et il termine le verset, ça dit dans la deuxième partie, et qui sait s'il sera sage ou insensé? Cependant, il sera maître de tout le travail auquel je me suis livré et de ce que j'ai fait avec sagesse sous le soleil. Et là, il arrive avec les mêmes conclusions. Depuis le début, là, je sais pas, je n'ai jamais compté depuis le début du chapitre 1 jusqu'à aujourd'hui, le nombre de fois où il dit cela aussi est une vanité. Alors, peu importe la quantité de biens que nous avons accumulés au cours de notre vie et de la grandeur des projets que nous aurons réalisés, nous savons tous qu'un jour, la mort nous en séparera. La douleur provient du fait que celui qui bénéficiera des efforts et de nos talents ne l'aura probablement pas mérité. La preuve, un millionnaire, travaille toute sa vie comme un déchaîné. À la fin, il donne ça à ses enfants, puis ses enfants peuvent tout dilapider. Parce que c'est pas eux autres qui l'ont gagné, ça fait qu'eux autres, et on voit ça très, très, très souvent. Là, on a vu ça observer un petit peu ce qui se passe autour de nous autres. Alors, la frustration s'ajoute si nous réalisons que celui qui nous succédera pourra ruiner notre œuvre, autrement dit, ce qu'on a fait dans notre vie, voire même la dilapider, s'il n'est pas sage. Ceci est une idée intolérable pour celui qui a mis toutes ses énergies pour bâtir son petit monument personnel. N'est-ce pas que les millionnaires, c'est ça qu'ils veulent? Ben non, les milliardaires, ils ont construit quelque chose, c'est immense, des fois ils ont fait des fortunes. Et c'est comme leur petit monument personnel. Ils veulent laisser leur marque sur la terre. Et bien souvent, la mort fait en sorte qu'ils donnent ça à un autre, qu'il n'y a même pas travaillé, puis qu'il souvent va la dilapider. La deuxième chose où on voit la main rectificatrice du Seigneur, c'est dans le verset 20 et 21. Il dit, ceux qui recevront les fruits de son travail ne les méritent pas. Bien sûr, si toi tu es millionnaire, tu donnes ça à tes enfants, puis que tes enfants ne les utilisent pas intelligemment, bien sûr que juste le fait d'y penser, ça te rend malheureux. Ça dit, verset 20, c'est pourquoi je me suis mis à n'espérer plus rien de tout le travail auquel je m'étais livré sous le soleil. Car tel homme a travaillé avec sagesse, science et succès. Et il laisse tout en partage à un homme qui n'y a point travaillé. Cela aussi est une vanité et un grand mal. Et ben, tout, je serais curieux de les compter une bonne fois, le nombre de fois qu'il dit que les choses auxquelles il s'est attaqué, c'est vanité. Alors, il est désespérant pour ceux qui ont tout misé sur le travail et qui voient leur château de cartes s'écrouler. Le fait d'être obligé de transférer les résultats du travail de toute une vie à une autre personne, qu'il n'y a aucunement ou très peu contribué, amène l'amertume dans l'âme et un sentiment d'injustice et d'impuissance. Salomon ajoute même au mot « vanité » l'expression, il dit non seulement c'est une vanité, mais il dit aussi c'est aussi un grand mal. Troisième correction que le Seigneur va faire dans la vie de ceux qui prennent cette direction-là, c'est qu'il se rend compte, dans le verset 22, il ne peut pleinement jouir des fruits de son labeur. Même ceux qui deviennent riches, qui deviennent célèbres, bien souvent sont tellement pognés dans le tourbillon de la vie qu'ils ne peuvent même pas apprécier ce qu'ils ont construit. Parce qu'il dit dans le verset 22, « Que reste-t-il en effet à l'homme de tout son travail et du tourment de son cœur, de ce dont il se fatigue sous le soleil? » Salomon constate que les résultats de son travail, les grands projets, etc., et les tourments qui les accompagnent, ne sont en fait que des monuments à leur futilité et de puissants rappels du gaspillage de sa vie. Toi, tu es en fait de ta vie, tu te rends compte que tout ce que tu as bâti, dans le fond, c'est comme un monument à la vanité, c'est comme un monument, un rappel de ton échec dans la vie. Alors, le Seigneur veut lui faire réaliser deux grands problèmes. Le premier, c'est le but qu'il a donné à sa quête insensée et à sa vie. Un grand mot, la thésaurisation, ça veut dire quoi, thésaurisation? Ça veut dire ramasser des trésors. Mm-hmm. Alors, la thésaurisation, soit le fait de ramasser des trésors pour lui-même, dans une perspective uniquement terrestre et temporelle. Si on veut savoir qu'est-ce que le Seigneur Jésus pense de ça, il dit dans Luc 12, versets 13 à 21. Alors quelqu'un de la troupe lui dit, « Maître, dis à mon frère qu'il partage avec moi notre héritage. » Mais Jésus lui répondit, « Ô homme, qui m'a établi pour être votre juge ou pour faire vos partages? » Puis il leur dit, « Gardez-vous avec soin de l'avarice, car quoique les biens abondent à quelqu'un, il n'a pas la vie par ses biens. » Et il leur dit cette parabole. Les terres d'un homme riche avaient rapporté avec abondance. Et il raisonnait en lui-même, disant, « Que ferai-je? Car je n'ai pas assez de place pour serrer ma récolte. Voici, dit-il, ce que je ferai. J'abattrai mes greniers, et j'en bâtirai de plus grands, et j'y amasserai toute ma récolte et tous mes biens. Puis je dirai à mon âme, « Mon âme, Tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années. Repose-toi, mange et bois et te réjouis. Mais Dieu lui dit, insensé, cette nuit même ton âme te sera redemandée. Et ce que tu as amassé, pour qui sera-t-il? Il en est ainsi de celui qui amasse des biens pour lui-même et qui n'est point riche en Dieu. Deuxième verset du Nouveau Testament, deuxième passage du Nouveau Testament, où on a encore à peu près la même idée concernant le but de la vie. Matthieu, chapitre 6, versets 19 à 21. Le Seigneur lui-même dit, « Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où les vers et la rouille gâtent tout, où les larrons percent et dérobent, mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où les vers ni la rouille ne gâtent rien et où les larrons ne percent ni ne dérobent point. Car là où est votre trésor, là sera aussi votre cœur. » Le destin de ceux qui s'efforcent d'amasser des biens terrestres pour eux-mêmes est la frustration et l'insatisfaction. Le problème de Salomon, ce qui l'a conduit à sa haine de la vie, découlait du fait qu'il essayait de tirer trop des simples choses de la vie, plus qu'elle ne pouvait donner. Il recherchait erronément l'accomplissement dans la jouissance des choses du monde. Donc, le premier grand problème que le Seigneur a voulu lui faire réaliser, c'est le but qu'il donnait à sa vie. Deuxième chose, c'est qu'il veut lui faire comprendre l'attribution du succès. Autrement dit, quand quelqu'un, vous déjà remarquez ça, quand quelqu'un réussit dans la vie, soit parce qu'il devient célèbre ou soit parce qu'il devient riche, il est porté à s'attribuer le mérite de tout ça. Pourtant, les Écritures nous avertissent que ce n'est pas le cas. Tous les hommes qui connaissent la richesse ou la célébrité sont tentés par l'orgueil en leur propre capacité et en leur propre talent. Les Saintes Écritures sont d'une grande clarté à ce sujet. Deutéronome, chapitre 8, versets 17 et 18. Moi, c'est un verset qui m'a toujours frappé parce qu'en général, les gens qui ont des talents sont toujours portés à penser que « Ah, c'est moi, ils se pètent les bretelles, autrement dit. » La Bible nous dit que tout vient de Dieu. Si tu as quelque chose, c'est parce que Dieu te l'a donné. Tu n'as pas d'affaire à te péter les bretelles pour ça. Alors, ça dit « Et que tu ne dises dans ton cœur, ma puissance et la force de ma main m'ont acquis ces biens, mais tu te souviendras de l'Éternel ton Dieu, car c'est lui qui te donne la force pour acquérir des biens, afin de confirmer son alliance qu'il a jurée à tes pères, comme tu le vois aujourd'hui. » Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui sont riches ou célèbres qui se rendent compte que, dans le fond, le fruit de ce qu'ils ont acquis vient de la main de Dieu. C'est Dieu, comme ça dit ici, c'est lui qui te donne la force pour acquérir des biens. Alors, c'est vraiment intéressant à connaître cette idée-là. Et la quatrième chose qu'il a besoin de le corriger, il doit comprendre les douloureuses et décapantes réalités. Car ça dit dans le verset 23, « Car tous ses jours ne sont que douleur, et son occupation n'est que chagrin. Même la nuit, son cœur ne repose point. Cela aussi est une vanité. » Alors, il veut lui apprendre la réalité de la permanence des douleurs qui sont causées par le style de vie qu'il a choisi. Autrement dit, si tu fais ce style de vie-là, la douleur va toujours t'accompagner. C'est ça que ça dit. Tous ces jours ne sont que douleurs au pluriel. Après ça, là, il veut lui montrer aussi que la réalité de sa poursuite ne lui amène que tristesse et chagrin. Quand tu as travaillé 25, 30, 40 ans à bâtir quelque chose, puis tu te rends compte que dans le fond, ça ne t'amène pas aucune joie, ben il y a quelque chose pour te décourager. Et l'autre idée, c'est la réalité que son orientation, le choix qu'il a fait, va le garder dans l'agitation, le trouble, le rongement d'esprit et l'insomnie. Parce qu'il dit, même la nuit, son cœur ne reposera pas. Souvent, c'est une réalité. Les gens qui sont riches, ils ont tellement de soucis, ils ont tellement peur de perdre une scène, de perdre de l'argent ou des propriétés, qui en deviennent très malheureux. Deuxième idée qu'on va regarder, la main de Dieu est régulatrice, versets 24 et 25. Ne vaut-il pas mieux pour l'homme manger et boire et faire jouir son âme du bien-être au milieu de son travail? J'ai vu aussi que cela vient de la main de Dieu, qui, en effet, a mangé, qui s'est réjoui plus que moi. L'idée qu'il veut exprimer ici, c'est que l'homme doit demeurer dans sa sphère de compétences et d'action. Autrement dit, un homme qui vise trop grand, qui essaie de comprendre tout le, y compris l'univers, tout ce qui se passe au niveau de la Terre, il n'a pas l'esprit pour ça, il n'a pas la capacité de le faire. Dieu veut te montrer, reste dans ta sphère de compétences et d'action. Et apprends à te contenter des dons que Dieu te donne. N'est-ce pas qu'on trouve beaucoup de plaisir à manger? Souvent, quand on se réunit, c'est quoi le plaisir? On se met à table, on prend un verre de vin, on mange bien, on a un plaisir. Alors Dieu nous dit, reste dans ta sphère, je te donne ça, contente-toi de ça. Et aussi le bien-être général de ta vie, il te donne, c'est un don qu'il te donne de pouvoir jouir de la vie en général, puis il ne te défend pas de pouvoir le faire. Il veut juste que tu constates les limites qu'il a lui-même attribuées. Et il veut aussi que tu puisses goûter les plaisirs de ton travail en acceptant ses limitations. Quand quelqu'un fait du beau travail, il y a une satisfaction qui en retire une satisfaction. Mais il ne faut pas que son travail devienne une fin en soi. C'est ça que le Seigneur veut essayer, veut que Salomon comprenne, mais par la bande, par nous aussi. Alors, si quelqu'un se limite à ce que Dieu veut que tu jouisses, tu vas connaître une certaine sérénité. Puis, tu vas comprendre, tu vas connaître aussi plusieurs joies temporelles et terrestres. Salomon a poussé sa quête jusqu'à ses extrêmes limites. Il veut rappeler à l'orgueilleux qui serait tenté de croire que ce serait différent pour lui, n'est qu'une vaine illusion. Alors, c'est bien important de réaliser ça aussi, c'est qu'il est en train de dire, j'avais la richesse, j'avais la sagesse, j'avais la gloire, j'ai fait beaucoup de grandes choses dans ma vie. Et ne pensez pas que vous serez différent. Autrement dit, ça ne se peut pas qu'un homme qui a eu tout ce que Salomon a eu, puis tout ce qu'il a expérimenté, que toi tu puisses dire, ah oui, mais ça c'est Salomon, mais moi, ça va être différent. Autrement dit, le Seigneur veut que tu te rendes compte que assaide-toi pas de faire mieux que lui, tu ne feras pas mieux que lui. Tu vas arriver exactement aux mêmes conclusions. Et la troisième idée, c'est le verset 26. La main de Dieu est rétributrice. Donc, rétribuer, ça veut dire Dieu récompense l'homme en le récompensant celui qui fait le bien et en jugeant celui qui fait le mal. Ça dit, verset 26, car Dieu donne à l'homme qui lui est agréable la sagesse, la science et la joie. Mais il donne aux pécheurs la tâche de recueillir et d'amasser afin de donner à celui qui est agréable à Dieu. Cela aussi est une vanité et un tourment d'esprit. Dans la Bible, Dieu rétribue l'homme en récompensant celui qui fait le bien et en jugeant celui qui fait le mal. Le Seigneur veut enseigner dans ce passage-là, dans ce verset-là, 26, des principes qui sont les suivants. Premier principe, Dieu donne à celui qui lui est agréable, autrement dit, à celui qui se soumet à sa volonté. Deuxième principe, Dieu donne aux pécheurs entêtés de recueillir et d'amasser des biens, des titres et des honneurs. Autrement dit, si le méchant poursuit sa route, il le laisse aller dans son chemin de vouloir s'enrichir, de vouloir s'enorgueillir de ses titres ou de ses honneurs. Troisième principe, Dieu dit qu'il redistribue aux sages les accumulations du pécheur. Autrement dit, le Seigneur est en train de te dire que ceux qui laissent aller dans l'accumulation des richesses, un jour il va permettre que ces richesses-là soient transférées à ceux qui lui obéissent. C'est un principe important à connaître. Et le dernier, c'est que Dieu remet les pendules à l'heure, il va exercer un jugement, il va exercer de la miséricorde, il va exercer de la justice. Trois applications qu'on peut faire de l'étude du passage qu'on vient de voir. Autrement dit, les applications, c'est qu'après avoir étudié ce qu'on vient d'étudier, quelles sont les choses qui viennent changer quelque chose dans nos vies? Parce que quand on lit les Écritures, ou qu'on étudie les Écritures, ou qu'on écoute un sermon, ça serait censé de changer quelque chose en nous. C'est ça qu'on appelle les applications. On lit un texte, on étudie un texte, et c'est supposé de nous parler et de faire en sorte qu'il va y avoir une transformation de notre personne. C'est ça les applications. Mm-hmm. Première application. Implorons le Seigneur de nous sonder. Donnons-nous trop d'importance au travail et à la recherche du bonheur terrestre. Qu'il nous accorde la grâce d'effectuer les corrections nécessaires si nous sommes dans de mauvaises voies. Deuxième application. Reconnaissons nos limites en appréciant les dons de Dieu. Le manger, le boire, la satisfaction du travail à l'intérieur des prescriptions divines. Exprimons souvent notre reconnaissance pour la générosité de ces dons. N'ayons pas la témérité que nous croyons que nous serons mieux que Salomon. Que l'on sache appliquer ces enseignements. Et dernière application, troisième, demandons au Seigneur de percevoir clairement sa main dans la conduite de nos vies et dans celle de tous les hommes. Nous verrons alors son intervention très sage dans nos vies. Que notre grand et glorieux Seigneur soit exalté, béni et adoré éternellement. Amen.
Amen.